Slate Podcast.
Bonjour, ce n'est plus Kétéran, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfert, qui depuis 3 ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute.
Il y a un passage dans un livre d'entretien de la romancière Annie Ernaux, L'écriture comme un couteau, dans lequel elle parle de définir ou non la littérature, la fiction, de la place du jeu, et dans ce passage, elle dit « Pour moi, la vérité est simplement le nom donné à ce qu'on cherche et qui se dérobe sans cesse. » Je trouve ça très beau de parler de vérité dans le contexte de l'écriture, parce que précisément, l'écriture est une recherche, un point de vue donné, qui ne peut jamais être total et jamais raconter une vérité absolue. De manière générale, chaque récit est une tentative de proposer une version possible, et plus les points de vue s'accumulent, plus vous entendrez différentes personnes vous raconter leur point de vue sur une même histoire, plus l'illusion de vérité sera grande. Mais il y aura toujours une autre version possible de cette histoire, une autre vision selon que le témoin aura grandi, changé, se sera remémoré quelque chose, se sera déplacé un tout petit peu. Et le palimpseste peut continuer à l'infini. La vérité se dérober à l'infini. Je suis Charlotte Pudlowski et aujourd'hui dans Transfert, une histoire de recherche de vérité, l'histoire de Léa, au micro de Jeanne-Marie Desnos.
Je suis très mauvaise en débat. C'est pas que j'ai pas d'idées, c'est que je n'arrive pas à me construire une position manichéenne sur un sujet quel qu'il soit. Je suis toujours un petit peu entre les deux. Et en fait, j'ai 33 ans et j'ai fini par comprendre que le sujet, c'est pas le sujet du débat. Le sujet, c'est celui de ma position par rapport à la vérité. La vérité, pour moi, c'est pas quelque chose d'important. Et la vérité, ça n'existe pas. Je n'arrive pas à écouter quelqu'un et à me dire « il dit la vérité » ou « il ment » ou « c'est faux ». Pour moi, on est toujours dans le gris. Et du coup, comme tout est dans le gris, je ne peux pas prendre position sur quoi que ce soit, parce que c'est très subjectif. On est en 89-90, j'ai 3 ans, 4 ans. Ça se passe à Toulouse, c'est la ville où j'habite depuis quelques années. On est en septembre et on a emménagé là un mois avant, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Un dimanche, on va à un pique-nique, mon père, ma sœur et moi. Et puis, ça se passe bien. En tout cas, je n'ai pas de souvenir de ça, mais c'est ce qu'on me dit. Ma mère est restée à la maison pour dormir. À cette époque-là, apparemment, elle dormait beaucoup. Et puis, à la fin de l'après-midi, on rentre à la maison. Et je me souviens rentrer dans une pièce et trouver ma maman... morte. Ce sont des souvenirs qui sont très flous, assez vagues pour moi, parce que j'étais toute petite, qu'on ne se souvient pas vraiment de ce qui se passe à cet âge-là. En revanche, je ne sais pas, probablement de mes 6-7 ans à mes 16 ans, j'ai fait des cauchemars. Dans ces cauchemars, j'ouvrais une porte et je... Et derrière cette porte, y avait quelqu'un de mort. Et ce n'était pas seulement des cauchemars que je faisais la nuit, c'était aussi dans les périodes où j'allais pas très bien, des choses que je vivais éveillées. C'est-à-dire que si j'allais aux toilettes, si j'allais dans une pièce qui est vide quand on y entre, Bah, y avait toujours dans mon esprit la possibilité que quelqu'un de mort soit derrière. Je me souviens de ce sentiment, de ce soulagement à chaque fois, de non, aujourd'hui il n'y avait personne. Mais il y avait toujours cette question en moi, qui parfois partait pendant quelques années, parce que ça allait mieux et ça revenait, toujours. Pendant très longtemps, je n'ai pas su s'il était vrai ce souvenir. J'ai pas su si vraiment j'avais trouvé ma mère morte ou pas. J'avais ces souvenirs après, mais bah, j'ai pas pu en parler et donc je savais pas si c'était un vrai souvenir ou pas. Et puis une autre chose dont j'ai jamais été sûre, c'est qu'est-ce qu'elle a fait ? Est-ce qu'elle s'est tirée une balle dans la tête ou dans le cœur ? Ensuite, pour savoir ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est vrai que je m'en souviens plus facilement par rapport aux dates. Je sais que mon père rencontre une autre femme qui sera ma mère adoptive. Et qu'en janvier 92, ma petite sœur naît. On habite toujours à Toulouse. On se retrouve avec une famille recomposée. Je m'entends pas particulièrement bien avec ma mère adoptive. Mais bah, je suis enfant et puis la vie suit son cours. J'ai toujours su que ma vraie mère était morte. J'ai toujours su qu'elle s'était suicidée. En revanche, c'est interdit d'en parler. J'ai 8 ans ou 9 ans. Ma sœur vient me chercher parce qu'elle a beaucoup de questions sur notre mère. On a du mal à avoir des réponses. Et on décide d'aller en parler à notre père. Donc on va le voir. On s'assied avec lui autour de la cuisine. Et je me souviens qu'on pose des questions sur comment elle était. C'est des choses qui sont importantes en fait quand on est petit. Et ben nous, on n'a pas de souvenirs. Donc c'est important pour nous. Je me souviens pas des réponses. Je me souviens que ma sœur est contente et qu'on repart avec un peu d'apaisement. Et puis le soir, notre mère adoptive arrive dans la chambre. Elle est très énervée. Elle nous demande ce qui s'est passé cet après-midi. Elle nous dit « plus jamais ». Plus jamais vous faites ça. Vous rendez votre père malheureux en posant toutes ces questions. À quoi ça sert ? Donc vous arrêtez. Et là, ça ferme complètement et quasi définitivement la possibilité pour nous de parler avec notre père pour avoir des informations sur comment était notre mère. Ça marche très bien, on ne reparlera pas avant mes 24-25 ans. Ma sœur a eu beaucoup de mal à gérer le fait qu'on n'avait pas accès à des informations sur notre mère. Moi, je l'ai pris comme un fait établi. J'ai toujours eu une façon de me comporter un peu marche ou crève. J'étais contente d'avoir les informations sur ma maman. Maintenant, bon, ben, je pouvais pas les avoir, j'allais me construire sans. Quelque chose qui facilitait entre guillemets le processus de ce côté-là, c'est que ma mère, elle n'était pas juste morte. Ma mère, elle s'était suicidée. C'est assez difficile pour un enfant de se construire en sachant que ta maman a décidé de partir malgré le fait que tu étais là. J'avais de la rancœur contre cette maman qui m'avait abandonnée, donc l'un dans l'autre, je me suis construite comme ça. De façon générale, je me suis adaptée, quoi. Je me souviens d'avoir essayé d'en parler avec ma grand-mère, la mère de ma mère. C'est un sujet qui est très difficile à aborder avec la famille du côté de ma mère, parce que c'est un souvenir très, très douloureux pour moi, mais pour eux aussi. Et je me souviens qu'en essayant d'avoir quelques informations, j'ouvre la porte à un flot d'émotions. Qui est trop difficile pour moi à gérer. C'est vraiment un sentiment très fort de si je commence à en parler, je vais me retrouver avec toutes les émotions de ma grand-mère à gérer en plus des miennes. Mais je ne veux pas gérer les émotions de ces adultes qui me les apportent un peu trop parfois. J'ai 9 ans, je suis avec ma grand-mère, chez ma grand-mère au Pays Basque, ma grand-mère paternelle, avec ma sœur. On est en vacances d'été. Ça doit être une des premières fois où on y va toute seule. On est dans la cuisine et puis on parle un peu de notre histoire. Et puis ma grand-mère me dit que notre mère a laissé un mot. La dernière chose qu'elle a faite avant de mourir, c'est de laisser un mot en nous disant à ma sœur et moi, soyez heureuses. C'est la première fois que j'en entends parler. Ma sœur est vraiment très heureuse d'entendre cette information. C'est une information qui va être structurante pour elle. La dernière pensée de sa maman avant de mourir, c'était pour elle. Moi, je trouve ça très gentil de nous raconter cette petite histoire, mais je l'accepte pas. C'est pas que j'ai pas confiance en ma grand-mère, en plus, c'est quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance, mais ça rentre pas dans l'histoire que je me suis faite. Ma sœur grandit en étant triste d'avoir perdu sa maman. Moi, je grandis en étant en colère qu'elle soit partie. Et donc, cette histoire de mots, elle rentre dans l'histoire de ma sœur. Dans la mienne, elle ne rentre pas. En tout cas, je ne la retiens pas comme intéressante ou importante. J'y crois pas à ce mot. Ma grand-mère paternelle, c'est la seule personne à laquelle je peux parler de cette histoire sans avoir l'impression de subir des conséquences pas positives. C'est vraiment ça, je suis en sécurité et je peux aborder le sujet, on ouvre la porte, on parle un petit peu, on ferme la porte et puis on peut continuer notre vie. Sauf que quand je vais avoir 13-14 ans, ma grand-mère meurt. Et avec elle, ces petites fenêtres qu'on avait parfois pour parler de ma mère, qu'on n'utilisait pas beaucoup, elles disparaissent complètement. Un peu plus tard, peut-être un ou deux étés après, je pars en vacances au Pays Basque, donc chez mes grands-parents paternels, enfin chez mon grand-père du coup, vu qu'il n'y a plus que mon grand-père, dans la maison de famille. Et il y a eu un petit peu de changement. Certains albums photos ont été déplacés et un affichage de photos qui était dans un salon a disparu, il a été changé. Et surtout, sur cet affichage, il n'y a plus la photo de ma maman. Cette photo, elle est importante pour moi parce que dans ma famille, chez mon père et ma mère adoptive, il n'y a pas de photo de ma mère. Chez mes grands-parents maternels, il y a quelques photos, mais je ne peux pas en parler parce que ça ouvre ce flot d'émotions que je ne peux pas gérer. Et au Pays Basque, dans cette maison qui est un peu mon foyer, parce que je déménage beaucoup avec mes parents, donc c'est vraiment cette maison au Pays Basque est un repère pour moi. Et dans cette maison, il y a cette photo qui est là. J'ai toujours su qu'elle était là. J'ai toujours su que c'était ma mère. Et en fait, je peux la regarder et il n'y a pas de conséquences négatives pour moi. C'est une photo, c'est une toute petite photo. La taille, ça doit être à peu près la taille d'une photo d'identité. On y voit une jeune femme qui doit avoir, 25, 26 ans, avec des cheveux ondulés, des yeux bleus, qui fait un grand sourire. La photo n'est pas particulièrement mise en valeur. Le cadre, ça doit être un cadre format A3. Donc, il y a plein de photos de plein de monde dessus. Mais il y a un endroit où il y a cette petite photo. Et cette petite photo, c'est ma maman. Et donc, cette photo, elle n'est plus là. Et j'ose pas demander où elle est parce qu'en fait, évoquer le besoin de ma mère a toujours des conséquences négatives. J'arrive pas à exprimer le fait que j'ai besoin de cette photo. Et puis les vacances d'après, je vais aller voir ma tante quand même. Et ma tante me montre où elle est. En fait, elle était dans la pièce d'à côté. C'est juste qu'on avait réorganisé les photos. Elle a jamais disparu. Et c'est là que je me rends compte quand même de l'importance de cette photo. En fait, ma mère, elle est là. Cette photo, maintenant, elle est toujours là. Elle est toujours dans le salon, dans cette maison au Pays Basque. Et chaque fois que je viens, bah, je vais toujours vérifier qu'elle est là. C'est assez étonnant parce qu'en fait, ma mère est enterrée à 200 mètres de la maison au Pays Basque. Elle est enterrée là-bas. Et je ne vais pas très souvent sur sa tombe. En revanche, je vais toujours voir la photo. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette photo. Et en fait, ça rouvre la porte à un besoin que j'ai d'avoir plus d'informations. Parce que là, j'ai 17 ans, 18 ans. Donc voilà, j'ai un âge où je suis en train de rentrer dans la vie adulte. Je me sens plus capable de gérer les réactions et surtout, je vais adopter une approche un peu différente. Je vais parler à des personnes qui sont un peu plus éloignées. Puis il y a quelque chose d'autre qui joue, c'est que ça fait 15-20 ans, c'est plus aussi neuf dans la tête des gens. Donc un été, je pars en stage chez ma grand-tante et mon grand-oncle. Et puis, j'ouvre le sujet. Et j'entends parler de cette maman qui était quelqu'un de brillant, qui a fait des études dans une grande école, qui était quelqu'un de solaire. Et puis j'entends aussi des choses qui font pas très plaisir. J'entends qu'elle a arrêté ses études parce que mon père avait trouvé un travail à Toulouse. J'entends que les relations avec mon père étaient très compliquées et que ça a probablement pesé dans la balance sur son mal-être. Et ça m'intrigue beaucoup, cette histoire d'études qu'elles auraient arrêtées. Et je sais que je vais essayer de creuser ce sujet en parlant un petit peu à ma grand-mère, mais en refermant la porte très vite, en abordant doucement, tout doucement le sujet avec d'autres personnes comme mon oncle du côté paternel. Et en fait, je vais jamais réussir à savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je sais que mes parents se sont rencontrés à l'école. Je suis née quand ils étaient à l'école. À un moment, juste avant son décès, on est descendu à Toulouse pour le travail de mon père. Je ne saurais jamais si ma mère avait terminé ses études ou pas. Certaines personnes m'ont dit qu'elle était en train d'écrire son mémoire. D'autres m'ont dit qu'elle était en train de commencer un doctorat. Et en fait, personne ne sait. Tout le monde a oublié. Je vais aller voir aussi mon oncle, le frère de ma mère. Et c'est des moments qui sont très beaux. Mon oncle, il va me raconter sa grande sœur. Il me raconte quel artiste c'était. Quelqu'un d'assez doué. Parce que lui est musicien. Ma mère était pianiste, jouait de la guitare également. Il va me raconter comment elle jouait. Et c'est une très belle façon de raconter les gens. Ça me permet de me faire l'image de quelqu'un qui était très bon techniquement, qui avait un tempérament assez créatif, mais qui avait aussi beaucoup de fierté et qui était peut-être parfois très concentré sur la technique et comment on fait les choses. Il me raconte aussi que la rencontre de mes parents, c'était une grande histoire d'amour, très forte, passionnée, passionnelle. Et c'est de ça que je suis née. C'est ça qui est important, en fait, dans cette histoire, pour moi. Je vais aussi parler à ma tante, la sœur de ma mère, sa grande sœur. Et ma tante, elle va me parler de cette rivalité qu'elle avait avec sa sœur. C'est quelque chose que je peux vraiment bien identifier parce qu'on a, j'ai une sœur aussi. Et je le comprends. Et c'est hyper important pour moi d'avoir cette vision de ma maman, pas comme une mère, pas comme quelqu'un qui s'est suicidé, pas comme une fille qui a disparu, comme une sœur qui était chiante parfois. Et voilà, et ce que j'entends aussi, c'est qu'elle était un peu jalouse parfois de l'attention que pouvait avoir ma mère. Si j'ai bien compris, ma mère était parfois assez souvent sur le devant de la scène. C'était quelqu'un qui faisait plus d'histoire. Ma tante avait 3 enfants en bas âge, elle arrivait bien à gérer, elle comprenait pas pourquoi sa sœur trouvait ça aussi difficile. Elle s'est pas rendue compte que ça pouvait être très difficile et difficile à ce point-là pour sa sœur. Je vais aussi parler à une autre tante, la sœur de mon père, et puis elle va me raconter l'été d'avant, au Pays Basque. Et elle va me raconter que notre mère se levait plus, qu'elle allait manger en dehors des heures de repas, qu'elle était restée prostrée dans sa chambre, Et que nous, on était des petites filles, donc on allait la voir et puis on jouait. Et puis les moments qu'on passait avec notre mère, c'était avec elle couchée. Donc ça devait quand même pas aller très très bien pendant cette période. Tous ces souvenirs-là, tous ces échanges que j'ai, ça se passe sur peut-être une petite année. Toutes ces personnes me racontent leur relation avec ma mère, avec chacune son prisme. Et ça va me permettre de me faire une image de comment elle était. Et surtout, ça va me permettre de me faire une image aussi de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, j'ai jamais réussi à avoir une information qui m'a semblé à peu près objective sur ce qui s'est réellement passé. Chacun met tellement d'émotions et chacun met tellement sa vision dans l'histoire que j'ai jamais eu une histoire cohérente avec une autre. Et donc, mon histoire à moi, ma vérité, c'est avec ces histoires-là que je vais la construire. Donc c'est l'histoire de deux jeunes gens qui se rencontrent pendant leurs études, qui tombent passionnément amoureux, qui vont se fiancer au bout de 3 mois, qui vont se marier au bout de 6 mois, 9 mois. C'est l'histoire de ma naissance, qui arrive à peu près 1 an après. Puis celle de ma sœur, 16 mois plus tard. C'est l'histoire aussi d'un homme et d'une femme qui sont probablement un peu à fleur de peau, qui sont tout jeunes, parce que quand je suis née, mon père avait 22 ans, et ma mère à peu près le même âge. Et c'est une histoire qui commence très fort, qui monte très haut, et qui se termine comme elle se termine. Probablement parce que des histoires aussi passionnelles, ça peut faire également très très mal. C'est à ce moment-là que je me rends compte aussi que peut-être que le fait d'avoir des enfants, ça n'a pas aidé les choses. Avoir des enfants aussitôt, pendant les études, à un moment où on ne s'est pas construit complètement en tant qu'adulte, ça n'a pas aidé. Et puis, l'été suivant, donc je suis au milieu de mes études. J'ai passé une première année à l'étranger et puis je rentre pour les vacances. Je retourne dans ma maison au Pays Basque. Et puis je parle à ma tante de ma grand-mère. Et dans la conversation, je lui reparle de ce mot dont elle nous a parlé quand on était toutes jeunes, à ma sœur et à moi. Et puis je lui dis que ce mot... C'était un joli mensonge, qu'il a été très structurant pour ma sœur et que vraiment je suis heureuse que ma grand-mère nous ait raconté cette histoire parce que pour ma sœur, ça a été quelque chose de très important. Ça l'a aidé à se construire avec l'image de sa maman qu'il aimait très fort. Et ma tante me regarde et elle me dit « Mais tu sais, c'était pas un mensonge. Il a existé ce mot. » Et là, mon monde s'effondre. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je prends l'information. Et puis, les vacances se terminent. Je repars à l'étranger. Et puis là, pendant 4 mois, jusqu'à la Noël, je vais pleurer tout le temps. Je vais pleurer le matin, je vais pleurer le midi, je vais pleurer le soir. J'ai besoin de parler de ma mère. Certaines personnes vont s'éloigner de moi. Des amis qui me disent que je suis pas très marrante, quoi. Et puis moi, je continue mon chemin, en fait. Je pense qu'on peut dire que je fais une dépression à ce moment-là. Après, ça ira mieux. Une fois que ça a été terminé, j'ai compris ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'avais construit ma relation avec ma mère qui était morte sur la base d'une colère. Tu as décidé de partir alors que moi, j'étais là. Et j'étais pas suffisante pour que tu restes. Et ce mot, en fait, ce mot, il me fait tout réévaluer. Il me fait me rendre compte qu'en fait, c'est pas qu'elle est partie malgré le fait que j'étais là, c'est qu'elle était tellement mal qu'en fait, elle pouvait même pas rester. Et donc, Bah, pendant cette période, je pense que j'ai refait une deuxième fois le deuil de ma maman. Et puis, les années passent et je commence la vie active. Et puis, ma sœur commence sa vie active. Et un jour, ma sœur me dit qu'elle a vraiment besoin d'en savoir plus sur notre mère. Et donc, bah, on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis 15-20 ans. On va retourner voir notre père. Donc, on est chez notre père à Paris. Et puis, bah, c'est le moment. Ma sœur commence à poser des questions sur qui était notre maman, comment les choses se sont faites. « Papa, raconte-nous cette histoire que vous avez vécue ensemble. » Et notre père ne dit pas non pour nous en parler. Il va avoir énormément de mal à nous dire la moindre chose positive. Il va nous raconter une histoire sur comment ils se sont rencontrés, qui laisse entendre que, bon, ça a été elle, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il va nous dire que c'était quelqu'un qui était malade, qui avait des problèmes d'anorexie, qu'on ne l'a pas prévenu. Il va beaucoup nous parler aussi des derniers moments. Il va nous parler des bouteilles d'alcool qui se vidaient, des marques qu'il mettait sur les bouteilles pour vérifier. Au début, il pensait que c'était la femme de ménage qui vidait les bouteilles. Et puis, ben, à un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il va nous raconter comment elle était déprimée l'été d'avant. Il va nous parler de ses appels à l'aide, de quand il a demandé à ses beaux-parents de prendre un peu son épouse en charge parce qu'il n'y arrivait plus. Comment ses beaux-parents lui ont dit non, c'est ta femme, c'est ton problème. Il va nous parler du médecin qu'il est allé voir, à qui il a demandé s'il n'y avait pas un risque que notre mère mette fin à ses jours, et qui lui a répondu non, non, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Il va raconter tout ça. Et puis nous, on va essayer de... Ben, on va essayer d'avoir les informations positives et il n'arrive pas à les sortir. C'est vraiment pas qu'il veut pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Rien sur cette grande histoire d'amour, sur on a été tellement heureux ensemble à certains moments. Impossible d'avoir la moindre information. Pourtant, on creuse. Hein. Ma sœur creuse, je creuse. Mais c'est pas ça qui va en ressortir. Et ça provoque énormément d'émotions. Il va pleurer. Ce soir-là, il pleure. Mon père, c'est pas quelqu'un qui pleure. Mon père, je pense que je l'avais pas vu pleurer depuis la dernière fois qu'on lui avait parlé de notre mère. Ces informations-là, bon, je les accueille. J'y crois sans y croire. C'est-à-dire que je vois bien que c'est une partie de la vérité. C'est sa vérité à lui. C'est celle qu'il est prêt à nous transmettre pour le moment. Et je sais qu'il est de bonne foi. Et je crois que c'est le plus important. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé, certaines m'ont dit des choses qui étaient vraies, d'autres qui étaient peut-être pas complètement vraies, mais qui étaient en tout cas authentiques dans la perception qu'elles en avaient. Et je suis contente d'avoir eu tous ces autres échanges avec d'autres personnes qui me permettent de me faire une vision plus tempérée des choses. Cette histoire d'amour, c'est pas juste l'histoire d'une descente aux enfers, c'est aussi une histoire qui a été très belle à un moment, avec des émotions très fortes dans le positif. Et donc, ce que me dit mon père, ça remet pas en cause l'idée que je me suis fait de ma mère et de la relation entre mes parents. Ça met en lumière à quel point ça a pu être difficile pour mon père, en revanche, ces dernières semaines, à quel point ils ont pu se sentir mal l'un et l'autre. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont beaucoup évoqué la responsabilité de mon père dans le décès de ma mère. Et là, les échanges avec mon père m'ont permis de me rendre compte que personne ne sait ce qu'il a vécu et qu'on peut être assez prompt à juger de ce qui s'est passé à la lumière du résultat. Mais que personne n'était là dans leur couple dans leur famille, quand ils étaient tous les deux, tout seuls, qu'ils avaient 26 ans, 27 ans, et qu'ils essayaient en fait juste de se construire. Et puis cette année, en mai, donc en mai 2019, je redescends toujours dans cette maison, dans le Pays Basque. Et une nouvelle fois, on est dans la cuisine. Et ma tante nous dit qu'elle a fait du rangement, parce que depuis, mon grand-père est décédé également. Et puis elle a retrouvé dans les papiers de mon grand-père des cartes postales que notre mère nous avait envoyé l'été d'avant son décès. Donc, c'est des cartes postales qui sont datées du mois d'août et elle est morte en septembre. C'est des cartes assez mignonnes parce que c'est des cartes... celle qui m'est adressée, elle me dit qu'elle espère que je n'ai plus peur du chien. Et la deuxième carte, elle me dit... on est mercredi, j'espère que tu te souviens que c'est le troisième jour. On avait dû compter le nombre de jours avant qu'elle revienne et que c'était une façon de créer le lien. Donc, c'est vraiment des choses assez mignonnes. Moi, ça me fait très plaisir de recevoir ces cartes. Ça fait un petit peu comme une boucle qui se referme. Et puis, en juillet de cette année, toujours juillet 2019, mon père a un accident d'avion. Tout se passe bien, pas de dégâts autres que matériels. Mais ça lance des conversations et je dis à mon père que ma sœur a encore un certain nombre de choses pas très digérées sur notre histoire vis-à-vis de notre maman et qu'un jour, elle viendra probablement le voir à nouveau. Et il me répond qu'on peut venir, qu'il sera prêt à nous parler. Et donc là, je suis toute seule avec lui. Ça doit être la première fois que je lui parle de notre mère sans que ma sœur soit là. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai deux questions. D'abord, j'aimerais bien savoir, j'ai ce cauchemar depuis que je suis toute petite, je rentre dans une pièce et je trouve quelqu'un mort, je trouve ma mère morte. Est-ce que j'ai vraiment trouvé ma mère morte? Et mon père me regarde et me dit... Cette journée, je me souviens de tout ce qui s'est passé, mais mes souvenirs sont très clairs. Et donc, je me souviens de ce pique-nique, de comment on est rentré. J'ai ouvert la porte de la chambre, je te tenais par la main et ta sœur était derrière. Et donc, je ne peux pas te dire que tu l'as vue ou que tu ne l'as pas vue, mais c'est possible. Et donc, j'ai 33 ans. Et presque 30 ans après, c'est la première fois que je sais si ce cauchemar que j'ai fait pendant des années avait des fondements ou pas. La deuxième question que je pose, je lui demande, elle s'est tirée une balle dans la tête ou dans le cœur? Alors, ça peut paraître un peu gore hein, comme question. Mais en fait... J'ai entendu des informations dans un sens, dans l'autre. J'avais pas moyen de savoir ce qui était vrai. Et mon père m'a répondu dans le cœur. Et ces deux informations, je pense qu'elles permettent de finir. C'était les deux dernières questions que j'avais. Je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les vérités que chacun m'a données, elles étaient complémentaires. Elles m'avaient permis de me construire à moi mon histoire, ma vérité. Et en fait, ça veut juste dire que j'ai atteint un stade où les informations sont suffisantes et je crois que je sais d'où je viens. Aujourd'hui, si on me demande de parler de ma mère, de ma maman, j'ai du mal à donner une image précise parce que en vrai, je ne l'ai pas connue. Mais même si j'ai du mal à mettre des mots sur cette histoire, en fait, j'ai cette image floue suffisamment définie pour pouvoir avancer. C'est une image de briques et de brocs, construite sur tous ces ressentis, toutes ces histoires qui sont complémentaires, parfois contradictoires. Mais qui m'ont permis de me construire l'image d'une maman qui a peut-être fait beaucoup de choses en même temps, qui a probablement eu une histoire de vie très difficile dans sa période entre 20 et 30 ans. Mais une maman qui m'aimait et qui n'a pas pu rester parce que tout le contexte rendait les choses trop difficiles. Mon rapport à la vérité, bah, il a eu une influence sur toute ma vie, bien évidemment, sur ma vie professionnelle aussi. Et parfois, il a été handicapant parce que bah, j'ai jamais réussi à défendre mon point de vue parce que j'étais toujours en train de me dire que l'autre personne avait un point de vue que je devais entendre, sa vérité à elle, à lui. Et du coup, j'avais du mal à placer les choses qui étaient importantes. Et aujourd'hui, je suis assez fière de moi parce que j'arrive à être un peu plus manichéenne. J'arrive à prendre position quand des choses sont importantes pour moi, à me dire que certes, chaque personne a sa vérité, mais moi j'ai aussi la mienne. Et ma vérité, parfois, elle vaut le coup que je la défende.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Jeanne-Marie Desnos. La musique a été composée par David Aknin. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcasts et à suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, @chapudelot sur Instagram, et envoyer vos histoires à podcast@slate.fr. À très vite.